Vous êtes sur RTL.
Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury, en direct comme tous les dimanches sur RTL et sur Paris Première. Bonjour Bernard Guetta.
Bonjour.
Vous êtes député européen Renew, spécialiste des questions internationales et membre de la majorité présidentielle. Moscou a été frappé par un attentat sanglant, nous allons en parler bien entendu. Et Moscou mène une offensive contre Kiev. L'Ukraine peut-elle tomber? Comment l'Europe peut-elle davantage aider l'Ukraine? Et les Européens seraient-ils ou seront-ils prêts si Donald Trump est élu et que les États-Unis nous lâchent? Des questions graves qui se posent en pleine campagne pour les élections européennes. Une campagne difficile et poussive pour le camp présidentiel. Nous y reviendrons. Bienvenue dans ce Grand Jury, Bernard Guetta.
Merci.
À mes côtés pour vous interroger, Jim Jarassé du Figaro.
Bonjour.
Et
bonjour.
Pauline Buisson de la rédaction de M6.
Bonjour, bonjour aussi.
Qui est responsable de l'attentat de Moscou, attentat qui a donc fait au moins 133 morts? Une question de Pauline Buisson.
Oui, les islamistes de Daesh ont revendiqué l'attentat dès vendredi. Moscou accuse l'Ukraine et Kiev retourne ses accusations. Finalement, Bernard Guetta, qui faut-il croire dans cet attentat?
Écoutez, tous les spécialistes dans toutes les chancelleries et dans tous les services de renseignement disent que la revendication par l'État islamique est parfaitement crédible. On n'a pas de raison de ne pas le croire. Mais si vous me permettez, je voudrais dire quand même un mot pour toutes ces familles russes endeuillées par ce massacre. Vous savez que j'ai longtemps vécu à Moscou, j'y ai toujours beaucoup d'amis, j'étais correspondant du Monde pendant des années. Et vraiment, j'ai pensé vendredi soir à toutes ces familles, ces groupes de copains qui avaient des copains dans la salle. C'est une salle de 7000 places, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai pensé à ça, j'ai pensé immédiatement que, évidemment, le pouvoir de Vladimir Poutine allait tenter de mettre cet attentat terroriste sur le dos de l'Ukraine. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Le président Zelensky, le président ukrainien, a dit très justement, aux surprises, avec toute l'ironie, évidemment qu'on l'attendait. Et je me dis, pardon.
Oui, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans les motivations de Daesh? Pourquoi frapper la Russie?
Mais parce que aux yeux de Daesh, la Russie est un pays occidental. Ça nous semble étrange, mais vous savez, les regards divers, suivant le point de vue et le point d'observation. Et donc, pour l'État islamique ou Daesh, évidemment que la Russie est un pays occidental, est un pays infidèle, puisque chrétien, qui se revendique d'ailleurs du christianisme avec force et vigueur. Monsieur Poutine, Vladimir Poutine n'arrête pas de le faire. Et puis, évidemment qu'ils sont en bagarre, et ils sont en bagarre pour une raison nouvelle maintenant, c'est que Vladimir Poutine recrute souvent de force dans les républiques musulmanes de la Fédération de Russie. Il n'ose pas le faire à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les grandes villes spécifiquement russes. En revanche, dans ces républiques éloignées, beaucoup plus pauvres...
Donc vous faites un lien. Il pourrait y avoir une motivation de Daesh.
Je pense que c'est une raison supplémentaire. Ouais. Il y a tout un contentieux historique qui remonte évidemment à la guerre de Syrie sur lequel on ne va pas revenir maintenant. Mais dans l'actualité la plus chaude, oui, il y a cela. Et vous savez, quand on regarde la situation, on se dit, en tout cas, je me dis, et avec beaucoup de tristesse, que Vladimir Poutine, non seulement est en train de détruire systématiquement l'Ukraine, mais il est en train de faire exploser la Fédération de Russie. Et personne ne peut se réjouir de cette perspective parce qu'une explosion de la Fédération de Russie qui, à mon avis, va bientôt être en train, et peut-être a-t-elle commencé avec l'attentat de vendredi soir, eh bien une explosion de cette fédération, cela signifie une guerre civile de plusieurs décennies aux confins de l'Europe, de l'Asie et du Proche-Orient. Personne ne peut souhaiter ça pour personne.
Jim Jarassé.
Est-ce que cet attentat vient nous rappeler que la menace terroriste, la menace islamiste n'a pas disparu?
Naturellement.
Même sans territoire, finalement, Daesh est toujours une menace. Est-ce qu'aujourd'hui, la menace principale, c'est la Russie, le régime de Vladimir Poutine, pour la France ou bien la menace terroriste.
Et vous savez, votre question est extrêmement pertinente parce que, évidemment, hélas, que la menace de Daesh n'a pas disparu. On vient de le voir vendredi soir, mais on l'a vu, vous savez, en Iran il y a quelques mois, parce que la même branche de l'État islamique avait organisé un attentat extraordinairement meurtrier, je crois que c'était 89 morts, en territoire iranien. Donc, évidemment que cette menace-là n'a pas disparu. Et quand on est dans notre position à nous, pays membres de l'Union européenne, on constate aujourd'hui que nous sommes face à une agressivité militaire de Vladimir Poutine à l'Est, au chaos des autres rives de la Méditerranée et à la menace islamique. C'est pas exactement la même chose, mais enfin, ça s'additionne. Et puis, à une troisième, je dirais pas menace, mais un troisième problème absolument dramatique auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, c'est la volonté non seulement de Donald Trump, mais en vérité des États-Unis, de se retirer du théâtre européen. Donald Trump l'exprime avec brutalité, je dirais même avec une grossièreté absolument insensée. Et il est vraisemblable que si par malheur, je dis bien par malheur, il était élu en novembre prochain, eh bien... l'Alliance Atlantique en serait décrédibilisée. Mais même si ce n'est pas Donald Trump, les démocrates aussi, les républicains modérés, les centristes, évidemment, considèrent aujourd'hui que les intérêts nationaux des États-Unis se jouent en Asie à cause de la compétition avec la Chine et non pas sur le théâtre européen. C'est-à-dire que nous sommes nus, sans parapluie, virtuellement, sans parapluie nucléaire américain, face à deux fronts.
On reviendra sur cet aspect-là des choses et l'élection possible de Donald Trump. Mais auparavant, je voudrais revenir sur une perspective que vous ouvriez et qui est très inquiétante, celle d'une explosion de la Fédération de Russie. Est-ce que les Européens n'ont pas intérêt, eux, à ce que la Fédération de Russie reste une et entière? Parce que, pour le coup, c'est un risque phénoménal pour l'Europe.
Je viens de vous le dire, le monde entier a intérêt, je crois, à ce que la Fédération de Russie
Ce qui veut dire que dans la perspective, à un moment où s'il y avait une perspective de paix avec l'Ukraine, ça veut dire que quand on parle de contrepartie de sécurité pour la Russie, ça veut dire qu'il faudrait s'assurer que la Fédération de Russie persiste et reste.
Écoutez,
sur ses bases.
Ce ne sera pas à nous, Européens, ça ne serait pas, parce que vraiment là on est dans une hypothèse très conditionnelle, ouais. Mais ça ne serait pas à nous, Européens, de nous assurer de la pérennité de la Fédération de Russie. Mais encore une fois, l'homme qui, aujourd'hui, anéantit ou tente d'anéantir, hélas avec certains succès, l'Ukraine, est en train de détruire son propre pays. Et quand on réfléchit à cette situation, il est urgentissime d'arrêter cet homme, de l'empêcher de nuire, non seulement à cause de l'Ukraine, non seulement à cause de la stabilité à nos frontières, à nous, Union européenne, mais à cause de la stabilité de l'autre côté, du côté oriental, je le répète, aux confins de l'Europe, de l'Asie, du Proche-Orient. Alors, véritablement, cet homme est un danger public, Vladimir Poutine.
Alors justement, l'Ukraine peut tomber à tout moment. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron mercredi soir à l'Élysée, avec des responsables de la majorité. Est-ce que l'Ukraine, selon vous, peut tomber à tout moment ?
J'aurais été le président de la République, je n'aurais peut-être pas dit les choses comme ça, mais il a raison, certainement et malheureusement, de souligner que l'Ukraine entre dans une période extraordinairement difficile, parce que les munitions que nous lui avions promises n'ont pas encore été livrées et n'arriveront pas pour certaines avant plusieurs semaines, pour d'autres avant plusieurs mois, et qu'il est à craindre que la Russie ne profite de cette fenêtre d'opportunité, c'est comme ça qu'on dit en langage militaire, pour tenter une offensive. Alors, je ne crains pas, peut-être ai-je tort, peut-être ne suis-je pas assez pessimiste, je ne sais pas. Je ne crains pas un anéantissement complet des défenses ukrainiennes, mais des reculs ukrainiens, oui, ça, on peut assister à cela.
Et dans ce contexte, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut négocier avec la Russie dès à présent ?
Mais la Russie ne veut absolument pas négocier. C'est extraordinaire, les gens qui disent « il faut négocier avec la Russie », mais négocier quoi ?
Monsieur Vladimir Poutine a annexé, c'est-à-dire intégré au territoire de la Fédération de Russie, à tel point qu'il a organisé les élections présidentielles russes dans ces territoires.
C'est de reconnaître une partie de l'annexion de l'Ukraine et d'arriver à un accord où
Reconnaître une partie de l'annexion de l'Ukraine, c'est aux Ukrainiens de le faire et certainement pas à nous. Enfin, est-ce qu'on peut imaginer que ce soit des démocraties qui aillent négocier par-dessus la tête de l'Ukraine l'annexion de ces territoires?
Les démocraties peuvent mener des démarches pour une ouverture vers des négociations. Écoutez, aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Mais vous pensez qu'il faudrait le faire?
Moi, je ne crois pas. Je vous pose la question.
Non, mais écoutez, oui, vous me posez la question. En effet, vous pensez qu'il faudrait le faire? Non, je ne le crois pas. Pourquoi? Parce que si on faisait cela, ce serait effectivement reconnaître un fait accompli qui viole le droit international, qui viole un consensus international établi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre tout le monde, entre les adversaires de la guerre froide. On n'annexe pas de territoire, c'est fini. Ce serait reconnaître ces annexions, ce serait tout simplement revenir sur cet immense progrès que tous les pays européens, et en vérité tous les pays du monde, mais enfin surtout tous les pays européens, avaient fait en 1945, et revenir aux mille années de guerre civile européenne. Pendant 1000 ans, l'Europe, le continent, s'est déchiré. Mais les Français contre les Anglais, les Allemands contre les Espagnols, tout le monde contre tout le monde. Est-ce qu'on va revenir à ça? Parce que si on reconnaît les annexions au nom du fait que dans le Donbass on parlait russe, ah très bien, mais est-ce que demain l'Italie va dire « mais Nice m'appartient » Est-ce que demain les Anglais vont dire « mais enfin les Irlandais, quelle langue parle-t-il? Ils parlent l'anglais comme nous. L'Irlande a toujours fait partie du Royaume-Uni, donc on réannexe. » Mais enfin, on met le doigt dans un engrenage absolument fou.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité qu'une victoire, je dirais, totale de l'Ukraine, comme scénario?
Je dirais que dans un premier temps, il faut, je crois que c'est indispensable, que Vladimir Poutine essuie une vraie défaite qui lui fasse comprendre la nécessité de négocier vraiment. Parce que, vous savez, dans la tête de Vladimir Poutine, aujourd'hui, négocier, c'est ce que j'ai annexé est déjà à moi et tout le reste est négociable. Mmh. Tout le reste est négociable, ça veut dire je garde la Crimée, je garde le Donbass, et puis peut-être que je vous laisse Lviv, là-bas, tout à fait à l'ouest, mais Kiev est à moi et l'ensemble du territoire ukrainien est à moi. On ne peut pas accepter ça parce que dans un deuxième temps, Vladimir Poutine continuera à vouloir remplir son ambition de reconstitution, non pas même de l'Union soviétique, hein, lisons ses textes, lisons ses discours, mais de l'Empire russe qui, rappelons-le nous, comprenez la Finlande, les Pays-Baltes, l'Ukraine, presque la moitié de la Pologne. C'est une folie.
Justement, Jim Jarassé.
Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron le laisse entendre, que si l'Ukraine perd la guerre, la Russie menacera ensuite la Pologne, la Moldavie, la Roumanie? Est-ce que ça, c'est une perspective crédible?
Malheureusement, tout à fait. Le scénario qu'on peut envisager, le scénario le plus vraisemblable, c'est que Vladimir Poutine se donnera le temps de digérer l'Ukraine ou les trois quarts ou les quatre cinquièmes de l'Ukraine, de reconstituer ses forces, et puis il ira chatouiller la frontière des Pays-Baltes, la frontière finlandaise, pour voir les réactions. Et n'oublions pas, revenons à notre point de départ, que les États-Unis sont en train de se retirer du continent européen, je dis bien sont en train, ce n'est pas fait, mais enfin, quand même, sont en train. L'Alliance Atlantique est déjà beaucoup décrédibilisée, donc Vladimir Poutine irait tester les réactions des États-Unis à un moment où, je crois, nous aurions beaucoup progressé, disons dans 4-5 ans, dans la direction de la constitution d'une défense commune européenne, mais où nous ne l'aurions pas encore.
On va revenir
On serait dans une situation extraordinairement difficile.
On va revenir sur cette question de la défense européenne. Pauline Buisson.
Oui, une question, Bernard Guetta. Les menaces contre la France, les cyberattaques, la désinformation, les menaces physiques contre Emmanuel Macron se multiplient.
Oui.
Est-ce qu'il faut les craindre? Est-ce qu'il faut réagir?
Est-ce qu'il faut y répondre?
Mais Oh, ils répondent in kind, comme on dit en anglais, c'est-à-dire du tac au tac, œil pour œil, dent pour dent. Non.
Il faut être un peu plus intelligent que ça.
Évidemment qu'il faut être un peu plus intelligent que ça. Mais il ne faut pas laisser passer des provocations de ce genre. Il ne faut pas les laisser impunis. Bien sûr que non, il faut réagir.
Ça veut dire quoi?
Mais écoutez, par exemple, depuis 2 ans, c'est un sujet chaud que j'aborde évidemment, depuis 2 ans, tout le monde, Américains et Européens, disaient on soutient l'Ukraine, on envoie des armes, on soutient leurs finances puisqu'ils ont bien peu de revenus maintenant, mais il n'y aura jamais un seul soldat de nos pays sur le territoire ukrainien. Souhaitons-le. Évidemment qu'il faut l'éviter. Mais si on veut l'éviter, il faut intimider Vladimir Poutine. Il ne faut surtout pas le rassurer. Depuis 2 ans, nous étions tous, encore une fois, Américains et Européens, à dire à Vladimir Poutine, non, 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 on ne te laissera pas annexer l'Ukraine, mais note bien, regarde bien, nos 2 bras sont dans le dos.
Donc,
non,
intimider...
ça suffit. Il faut que la peur change de camp.
Intimider
il faut inquiéter.
Poutine,
excusez-moi, il faut inquiéter cet homme, pardon.
Intimider Vladimir Poutine, c'est lui laisser entendre que des troupes pourraient intervenir sur le sol ukrainien.
Je préfère le mot d'inquiéter. Il faut l'inquiéter. Il faut qu'il y ait un malaise qui monte en lui. Parce que, vous savez, Vladimir Poutine considère que les Occidentaux, que nous, sommes des gens décadents. Lâche, ne vivant que pour la consommation matérielle, n'ayant aucun sens patriotique, etc. Alors déjà, depuis 2 ans, il est très 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 surpris. Enfin, tiens, comment ces Européens, dont je n'attendais qu'une débandade, immédiatement se sont précipités pour soutenir, et vraiment soutenir, l'Ukraine. 2 ans après, ils sont toujours là, et les rangs de l'Union européenne sont toujours plus serrés. Ils ne se défont pas.
Sur la question des troupes, pour le coup, on a vu un certain désaccord quand même.
Mais écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord.
Si vous prenez les prises de parole.
Eh ben non.
Mais je vais vous dire. Les propos d'Emmanuel Macron.
Oui oui, je sais. Mais je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord. Parce que dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de stupeur des autres capitales européennes qui ont dit mais non, enfin comment, on n'en a pas parlé. Il venait d'en parler pendant 3 heures. Mais enfin, on avait dit qu'on n'en parlerait pas publiquement.
Voilà.
Et donc, ils n'étaient pas contents. Mais sur le fond, ils n'étaient pas du tout en désaccord. Et les jours passants, ils ont commencé, une capitale après l'autre, à se rendre compte de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire de la nécessité de faire changer l'inquiétude de camp. Et aujourd'hui, il n'y a plus de malaise autour de cela parce qu'il y a une bien plus grande compréhension de ce qu'a voulu faire Emmanuel Macron. Et par parenthèse, Emmanuel Macron, en donnant un coup de pied dans la table, c'est ce qu'il a fait. Il a donné un coup de pied dans la table. Eh bien, en donnant ce coup de pied, il a réveillé tout le monde, le débat monté. Mais maintenant, il est sur la table et il y a un phénomène extraordinairement intéressant. C'est que l'Union européenne est devenue, depuis 3 semaines, une seule et même scène politique dans laquelle on débat dans les mêmes termes de ce qu'il faut faire, pas faire, faire à moitié, faire complètement, etc., dans le soutien à l'Ukraine. Et le débat que vous trouvez, je ne sais pas moi, en Pologne, en Espagne, en Finlande, est le même que celui que vous trouvez, exactement le même, que celui que vous trouvez avec les mêmes protagonistes, que celui que vous trouvez à Paris ou à Berlin.
Mais est-ce que l'Ukraine n'a pas surtout besoin d'argent? Volodymyr Zelensky lui-même a pris ses distances avec Emmanuel Macron en disant vos enfants français ne vont pas mourir en Ukraine. Sous-entendu, on n'a pas besoin de soldats français, mais on a besoin d'armes et d'argent. Or, quand on regarde les décomptes, notamment du Kiel Institute, qui est un organisme allemand, quand
qui est
on
un
agrège,
organisme allemand, oui, comme...
c'est important.
Faites bien le souligner.
C'est important de le préciser.
Oui.
Mais quand on agrège les aides financières, humanitaires et militaires promises à l'Ukraine, la France se retrouve au 15e rang des pays contributeurs avec seulement 1,8 milliard d'euros contre 22 milliards pour l'Allemagne. Est-ce que finalement la France est bien placée pour donner des leçons à ses alliés européens sur le sujet de l'aide à l'Ukraine ?
Écoutez, d'abord, je ne crois pas que Emmanuel Macron ait donné des leçons. C'est pas comme ça que
c'est comme ça que ça a été interprété.
C'est comme ça que ça a été interprété. Je vous le disais, pendant les premières 48 heures, ça a beaucoup évolué et je crois dans la bonne direction. Et encore une fois, je pense que Emmanuel Macron a eu raison de donner ce coup de pied dans la table, que les résultats sont là. Maintenant, pour ce qui est de l'aide, moi, je peux vous dire, je suis non seulement député européen, mais membre de la commission des affaires étrangères. Je m'occupe énormément, évidemment, du dossier ukrainien et du dossier russe, parallèlement, les deux en même temps. Et à chaque fois que j'ai des contacts, c'est-à-dire deux fois par semaine à peu près, avec des interlocuteurs ukrainiens, eh bien, je n'ai que un concert d'éloges sur l'aide apportée par la France, parce que les armes que nous fournissons sont particulièrement efficaces et répondent particulièrement à leurs besoins, ont été livrées à temps, aux dates demandées, aux dates...
Ce qui manque à l'Ukraine aujourd'hui, ce sont des munitions. Et pour le coup, absolument, les munitions, on n'en livre pas beaucoup.
Ben on en Alors, vous savez pourquoi on n'en livre pas? On n'en livre pas parce qu'on n'en a pas.
Ouais.
Alors, les États-Unis n'en livrent pas parce que M. Trump bloque. Les États-Unis en auraient, mais M. Trump bloque. Par parenthèse, M. Trump est couvert de sang ukrainien jusqu'aux épaules. Parce qu'aujourd'hui, les soldats ukrainiens meurent à cause de M. Trump. À cause de M. Trump et de ses amis, naturellement, à la Chambre des représentants. Nous, Européens, pas seulement Français, mais Français compris, nous avons réalisé avec effroi les conséquences épouvantables de la grande naïveté avec laquelle nous avions vu il y a déjà bien longtemps tomber le mur de Berlin. Ah, c'était fini, il n'y avait plus de guerre froide, il n'y avait plus de menace de guerre, etc. Ben, naturellement, ben, on va réduire les dépenses militaires au profit... Ben, c'était pas scandaleux, bien au contraire, au profit de dépenses scolaires, hospitalières, etc. etc. Ben, le problème, c'est qu'on s'aperçoit 25 ou 30 ans après que la guerre est revenue et que nos chaînes de production d'armement ont été considérablement réduites, qu'il y a beaucoup, les gens qui sont partis à la retraite n'ont pas été remplacés, etc. Et il y a un effort, mais colossal, dans toutes les capitales européennes, à l'exception de Budapest, naturellement, de la Hongrie, naturellement, dans toutes les capitales européennes et dans les institutions européennes, pour deux choses. Premièrement, relancer les chaînes de production, et ça se fait, et ça commence à se faire, vraiment. Et deuxièmement, favoriser les achats groupés par groupe de pays, ou si possible, l'Union européenne entière, afin de donner un coup de fouet à la production.
Est-ce que pour vous, on est passé en économie de guerre? Et qu'est-ce que ça veut dire, économie de guerre?
Bah, l'économie de guerre, c'est quand on sacrifie des dépenses à l'effort militaire. Je ne dirais pas qu'on en soit encore là, mais et je le regrette. Et je le regrette parce qu'il y a un moment où il faudra véritablement envisager des sacrifices budgétaires. Mais est-ce qu'on est déjà en économie de guerre? Je dirais à moitié parce qu'on l'est politiquement. On ne l'est pas encore budgétairement. On l'est dans les têtes. Parce que la nécessité s'est inscrite dans les esprits.
Mais quand il y a un sommet européen cette semaine, et que le débouché de ce sommet européen, c'est de dire on va prendre dans les intérêts que produisent les avoirs russes gelés, et ça c'est 3 milliards d'euros par an. 3 milliards, ça semble très très peu, on est loin d'investissements importants.
Oui, c'est pour ça qu'il y a deux idées qui circulent et qui montent très très vite. Il y a une idée qui est poussée par la première ministre estonienne, qui est une femme extraordinairement active sur la scène européenne, courageuse, battante, etc., qui serait de lancer un emprunt commun de l'Union européenne de 100 milliards d'euros pour financer justement la relance de nos industries d'armement. Bon, certains pays se font tirer les moustaches.
Convaincre l'Allemagne.
Notamment l'Allemagne, mais pas seul.
Les Pays-Bas aussi.
C'est ce qu'on appelle... Non, je ne vais pas le dire. Bon, c'est les usual suspects.
Les frigos.
Les pays radins.
C'est vous qui l'avez dit. Ouais. Bon, d'accord. Mais il y a une autre idée. Il y a une banque qui s'appelle la Banque européenne d'investissement. Mm-hmm. Pour l'instant, elle ne peut pas favoriser
les investissements dans l'armement statutairement. Elle ne peut favoriser que les investissements dans les, pour les, comment on dit, les produits mixtes, pas c'est pas produits, les, je ne sais plus quoi. Enfin bref, les choses à usage civil et militaire. Je crois que les statuts de cette banque vont évoluer très vite et radicalement, et que cette banque va pouvoir mettre sur le tapis l'argent à emprunter, finalement, parce que ce sera toujours de l'argent emprunté.
Alors, une question maintenant anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, parce qu'on parlait tout à l'heure de rapport de force avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, qui valide des photos en noir et blanc diffusées sur les réseaux sociaux, où il s'entraîne à la boxe, très musclé, viril, vous avez trouvé ça comment ? Est-ce que c'est un message envoyé à Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est ça, de la diplomatie aussi ?
Je sais pas, je ne m'étais jamais posé la question.
Ça a été interprété.
Oui, non, mais écoutez, maintenant que vous le dites, peut-être, pourquoi pas. Si Vladimir Poutine reçoit le message, tant mieux.
Bon, l'idée de défense européenne, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça reste cependant pour l'instant un concept qui a quand même pas mal d'opposants. Est-ce qu'une défense européenne, ça veut dire nécessairement une politique étrangère commune, autrement dit un changement quand même très important du fonctionnement aujourd'hui de l'Europe?
Alors, un désaccord avec ce que vous venez de dire, jusqu'il y a 6-7 ans, précisément jusqu'en 2016, la première campagne électorale de Donald Trump, quand il a commencé à tirer à boulets rouges contre l'Alliance Atlantique et contre les pays européens. Jusqu'en 2016, la France était, vous aviez raison, jusqu'à cette date-là, la seule, à défendre dans l'Union européenne l'idée d'une défense commune. Depuis 2016, eh bien, tous nos partenaires ont compris que le parapluie américain était en train de se refermer. Le tabou sur la défense commune est tombé dès 2016-2017.
Mais est-ce qu'une défense...
Et depuis 2 ans, depuis l'invasion du territoire ukrainien, le 24 février 2022, alors au contraire, c'est la course pour rattraper le temps perdu. Et il y a unanimité, pardonnez-moi, y compris, c'est très très intéressant, y compris là de Budapest. Monsieur Orban, le premier ministre hongrois, qui n'arrête pas de tirer à boulets rouges contre l'Union européenne, c'est l'abomination des abominations, il y reste, cela étant, hein, il ne part jamais, il vote toujours au bout du compte, mais enfin bref, il n'arrête pas de tirer à boulets rouges, sauf sur un point. Et ça, depuis 20 ans, il a toujours été constant. A-t-il toujours dit, une défense européenne.
On va reparler de défense européenne, de souveraineté aussi, un mot qui est pas mal à la mode en ce moment, d'élargissement aussi. Est-ce que l'Ukraine doit rentrer dans l'Europe? Et puis on parlera aussi d'un autre sujet assez polémique en ce moment, celui des accords de libre-échange. Tout ça, ça sera dans la seconde partie du Grand Jury. À tout de suite.
Grand Jury, présenté par Olivier Bost.
Bernard Guetta, député européen Renew de la majorité présidentielle et spécialiste des questions internationales, est notre invité ce dimanche. Bernard Guetta, dans l'actualité de la semaine, il a été beaucoup question du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, Jim Jarassi.
Oui, le CETA qui a été rejeté cette semaine par le Sénat. Le Parlement risque, l'Assemblée nationale risque également de se pencher sur ce traité et peut-être de le rejeter. Est-ce que vous défendez cet accord de libre-échange avec le Canada, le CETA?
Écoutez, moi, je dirais qu'il y a deux questions. L'accord entre l'Union de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, oui, il est parfaitement défendable, notamment pour les Français, puisqu'il nous rapporte véritablement de l'argent. 500 millions, c'est pas 9 000 milliards, mais enfin bon, quand même, 500 millions, on n'y perd rien du tout. Deuxièmement, on exporte dans de bonnes conditions vers le Canada à la fois des vins, des fromages, mais aussi des produits chimiques, de l'industrie pharmaceutique, des choses, je dirais, plus sensibles, industriellement parlant, pas gastronomiquement parlant. De l'autre côté, nous importons
du Canada beaucoup de matières premières et notamment des minerais dont nous avons beaucoup besoin pour la transition énergétique.
Et ceux qui pâtissent de cet accord, ce sont notamment les éleveurs et les éleveurs de bœuf.
Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que les importations de bœuf canadien, qui sont permises effectivement, sont très 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 minimes aujourd'hui.
Ouais, mais les Canadiens utilisent des produits qu'on n'utilise pas, des antibiotiques, etc.
C'est absolument vrai, et c'est pour ça que cet accord n'est pas parfait, bien loin de là. Mais deux choses, premièrement, globalement parlant, même très largement, cet accord est nettement profitable aux Européens, plus qu'aux Canadiens et particulièrement aux Français. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier une chose. Cet accord a été négocié il y a déjà 7 ou 8 ans, je crois. Mm-hmm. 8 ans, je crois plutôt. Hein, 8 ans.
Et il est appliqué sans avoir été ratifié par tous les parlements.
Alors vous savez pourquoi ? Parce que, c'est technique, pardonnez-moi, mais 90% de cet accord relève de l'Union européenne qui a le monopole de la négociation de nos accords, de nos accords commerciaux. Et il y a 10%, une marge, qui ne relève pas de la compétence exclusive.
Le Sénat et l'Assemblée rejettent cet accord, il doit continuer à être appliqué.
Alors c'est très compliqué. Dans les 90% qui relèvent de la compétence exclusive de la Commission européenne, de l'Union européenne, oui, dans les 10%, certaines pas. Bon, écoutez,
Il faudrait revoir dans ce cas-là le cadre du...
Je prendrai un petit peu de hauteur si vous me le permettez. Si il y a cette empoignade autour de cet accord qui, encore une fois, a été négocié il y a 7 ans et approuvé par les mêmes forces politiques qui aujourd'hui le rejettent au Sénat et pourraient le rejeter demain à l'Assemblée nationale, je veux dire la gauche LR et le Parti socialiste. Bon, pas de commentaire. Enfin, le commentaire s'entend, je crois. Bon. En revanche, si on prend un tout petit peu de hauteur, la grande question, c'est est-ce qu'il faut poursuivre ou non avec les accords commerciaux de libre-échange. Alors, quand ils nous sont défavorables, et qu'ils sont aussi défavorables à l'ensemble de l'Union européenne que le serait, par exemple, le projet d'accord Mercosur, comme vous le savez, les députés...
C'est l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud.
Exactement, excusez-moi. Les députés de mon groupe, de la délégation française, de la majorité présidentielle au Parlement européen, nous bloquons cet accord.
Et la France est de plus en plus isolée sur cette position, quand même.
La France est isolée, c'est vrai, mais pour l'instant, nous bloquons, nous le battons bec et ongles. À l'intérieur du groupe politique Renew du Parlement européen, qui réunit les différents centres des différents États membres, il y a deux positions véritablement comme ça. Hein. C'est la position française et la position espagnole. Parce que les Espagnols, naturellement, communauté de langue, ancien empire, etc., etc., sont favorables à cet accord. Nous disons non. Cet accord est bloqué.
Mais derrière ces remises en cause des accords de libre-échange, il y a une question, c'est est-ce que l'Europe n'est pas finalement trop naïve ou pas suffisamment protectionniste, alors que par exemple les États-Unis ou la Chine ne se gênent absolument pas en la matière.
Vous avez raison, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Si vous voulez mon sentiment, je pense qu'on sort de 30 années de déification du libre-échange et qu'on va rentrer, et que ce sera tout aussi stupide que la déification du libre-échange, dans le rejet absolu, la diabolisation de tout accord de libre-échange.
C'est quand même un changement de philosophie, y compris pour votre propre famille politique.
Non, c'est un changement de philosophie mondiale. On ne s'est peut-être pas assez rendu compte que nous étions sortis de la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher pour revenir à des formes de dirigisme et d'implication des États dans l'économie, pas seulement en France et pas seulement en Europe. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est absolument spectaculaire. Il y a un grand retour du dirigisme industriel et économique. J'envisage parfaitement qu'il y ait le même retour de bâton sur les accords de libre-échange. Mais, si ce retour de bâton a lieu, à ce moment-là, il faudra plus que jamais que les pays de l'Union européenne soient unis. Parce qu'autrement, nous ne ferons pas face. Imaginez que dans un retour au protectionnisme, que pour ma part je ne souhaite pas, je pense qu'il faut réguler les libre-échanges beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et c'est ce que nous essayons de faire avec succès pour l'instant, sur le Mercosur. Mais retour, si retour à un vrai protectionnisme il faudra vraiment plus que jamais que toutes les nations de l'Union européenne soient unies pour faire front.
Mais alors, au moment où on remet en cause un certain nombre de ces accords de libre-échange, ou en tout cas qu'ils peuvent être contestés, les mêmes d'ailleurs contestent aussi l'idée d'une intégration à l'Union européenne de l'Ukraine,
oui.
En disant qu'on ouvrirait encore notre marché, on déstabiliserait nos marchés intérieurs. Qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ben, je leur réponds qu'il faut qu'ils ouvrent leurs oreilles et leurs yeux. L'Union européenne du 21e siècle ne sera pas, et n'est déjà plus, l'Union européenne du XXe siècle. Si nous nous élargissons à de nouveaux pays, et je pense qu'il faut le faire, et je pense que nous le ferons.
Vous pensez que les Européens voteraient pour un élargissement ?
Il faudra le faire, laissez-moi terminer ma phrase, parce qu'elle est importante, je crois. Il faudra le faire dans de tout autres conditions que celles qui organisent aujourd'hui l'Union européenne. L'Union européenne de demain doit être sous un même nom, sous un même drapeau, une union d'États alliés avec des degrés d'intégration différents. Certains seront dans un marché commun, celui du traité de Rome, celui qui avait jeté les bases de l'Union européenne. Certains seront dans une union qui ressemblera très très, d'une manière très très proche à l'Union européenne d'aujourd'hui, et certains autres seront dans une Europe, dans une union beaucoup plus intégrée, c'est-à-dire politiquement et notamment militairement sur les questions de défense. Et donc nous aurons des degrés d'intégration différents. Et donc la question de l'Ukraine et de sa production agricole ne se posera pas du tout dans les termes dans lesquels ça se poserait si on élargissait dans les conditions du XXe siècle. Il faut vraiment comprendre cela. Et vous savez, une parenthèse. J'entends souvent des europhobes ou des eurosceptiques, notamment au Rassemblement national, mais pas seulement, parler des dirigeants européens. Certains sont mes amis politiques, d'autres pas. Mais parler des dirigeants européens, des responsables de la Commission, des élus au Parlement européen, comme de fiefs imbéciles qui vraiment contribueraient nuit et jour à miner les intérêts non seulement de chacun des pays européens, mais de l'ensemble des pays européens. Mais non, écoutez, non, c'est pas vrai. C'est exactement le contraire.
On va parler de la campagne des européennes.
Non, c'est pas la campagne, ça. C'est vraiment l'idée de construire l'Union européenne.
Oui, mais vous avez notamment évoqué le Rassemblement national.
Ah, pardon.
Donc on va les évoquer. Mais juste avant, une question, parce que c'est peut-être aussi une question de crédibilité de la France au sein de l'Europe. Après-demain, mardi, nous allons connaître les chiffres du déficit de la France pour l'année 2023. Bon, ils vont être mauvais, ils vont être surtout beaucoup plus mauvais que prévu,
oui.
Avec un dérapage de 15 à 20 milliards d'euros minimum sur nos dépenses. Est-ce que nous sommes... Déjà, nous sommes un pays européen qui redresse relativement peu ou quasiment le moins ses dépenses. Est-ce que ça nous pose un problème de crédibilité au niveau européen ? Est-ce qu'on peut donner des leçons ? Est-ce qu'on est audible avec de si mauvais résultats ?
Ces résultats sont mauvais, ils sont déplorables, ils sont inquiétants. S'ils ne posent pas un problème de crédibilité pour la France au sein de l'Union européenne, pour deux raisons. C'est que jamais la France n'a été aussi crédible au sein de l'Union européenne, parce que la France a gagné intellectuellement et politiquement sur toutes ces grandes batailles. Souvenez-vous de l'emprunt commun, 750 milliards d'euros. Mmh. C'est Macron qui le propose. Et en fait, c'est la France qui se battait depuis des décennies pour cette idée-là, des eurobonds, des emprunts communs, etc.
Souvenez-vous, ont redressé leurs finances.
Souvenez-vous de la défense commune, souvenez-vous de la politique étrangère commune, souvenez-vous de l'affirmation de l'Union européenne comme un acteur politique de la scène internationale. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Union européenne parle, politiquement parlant, parle français.
Donc le
problème de crédibilité...
Donc le déficit français n'est pas une question.
Non, si. Le déficit français est une grande question, bien sûr, est une grande question pour nous. Je dis que ce n'est pas une question de crédibilité pour la France au sein de l'Union européenne, mais pour nous, évidemment. Mais ça pose deux questions, enfin au moins deux questions. Je dirais, premièrement, le choix que nous avons fait, choix dont je me félicite, du quoi qu'il en coûte au moment du Covid. Parce que nous avons sauvé le commerce, l'industrie et en vérité la société française.
L'an dernier, c'est plus.
Bah oui, ça a coûté cher.
Mais l'an dernier, c'est plus le quoi qu'il en coûte. C'est...
Non, mais bien sûr. Bah oui, ça a coûté cher. Ça a coûté cher dans un pays qui d'ores et déjà, avant cela, vivait déjà au-dessus de ses moyens. Mmh. Alors là, il y a une vraie réflexion à entamer pour la France. Monsieur Le Maire vient de sortir un livre. J'aurais préféré qu'il attende 2 mois de plus. Mais enfin bon, j'ai pas encore lu son livre. Peut-être qu'il est excellent.
Pourquoi vous auriez voulu qu'il attende 2 mois de plus à cause des élections européennes ?
Ben parce que on ne peut pas mêler tous les grands débats en même temps. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si on met dans la même casserole, effectivement, la nécessité de repenser les finances françaises, c'est une nécessité absolue, bien sûr. Si on met dans une même casserole cette nécessité, le débat sur l'Ukraine, le débat sur la défense européenne, le débat sur les institutions européennes, le débat sur la constitution future des groupes politiques au sein du Parlement, on n'y arrive plus.
Excusez-moi, un peu d'ordre. Ce débat, il risque de s'imposer à vous. C'est-à-dire que les agences de notation, par exemple, vont revoir la note de la France à partir de fin avril, courant mai.
Oui.
S'il y a une dégradation de la note de la France à quelques semaines de la campagne européenne, ce débat va forcément s'imposer, vous le savez.
Il va forcément s'imposer, oui, bien sûr.
Est-ce que ça peut menacer la fin de la campagne ?
Non. On peut commencer à y réfléchir, on doit commencer à y réfléchir et on peut commencer à y répondre assez vite. Mais encore une fois, chaque chose en son temps. Mais je donne-moi un exemple qui me frappe. Je ne suis pas un économiste, hein. Moi, je suis un spécialiste des questions internationales, c'est tout à fait différent. Mais comme citoyen français, moi, je n'en peux plus de... comment on appelle ça, le millefeuille administratif français. Bon, il y a évidemment là une source, enfin, il me semble à moi, une source d'économie considérable à faire. Je suis bien conscient que ça ne puisse pas se décréter du jour au lendemain, mais il serait vraiment temps de s'y mettre.
Vous avez dit, il y a trop de...
Par exemple.
On lance trop de sujets pendant une période de campagne des élections européennes. Le choix du camp présidentiel, ça a été pour l'instant, et surtout, de viser le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie ou est-ce qu'au contraire, ça fait monter le Rassemblement national ? Et derrière, une autre question, est-ce que finalement, le camp présidentiel manque pas un peu d'idées pour cette campagne ?
Manque pas d'idées. Écoutez, je crois qu'on en a beaucoup et j'espère. Vous allez peut-être me dire le contraire que je le démontre en ce moment.
Il y a
une idée par phrase dans ce que je vous dis, bonne ou mauvaise. Bon, alors je crois pas qu'on manque d'idées, bien entendu. Par parenthèse, la délégation, comme on dit, c'est-à-dire les députés de la majorité présidentielle française au Parlement, c'est vraiment, pardonnez-moi de le dire puisque j'en fais partie, mais une très très fine équipe. On a réuni dans des domaines très très différents, de l'agriculture à la médecine, en passant par l'informatique, évidemment l'international et bien d'autres sujets, des gens qui vraiment...
Vous ne répondez pas à ma question sur la stratégie face au Rassemblement national. Est-ce que c'est de bonne stratégie de cogner contre le Front ?
Je ne sais pas si c'est de bonne stratégie. Je sais que c'est une nécessité absolue. Parce que, écoutez, imaginons que Mme Le Pen ait été élue à l'élection présidentielle, pas la dernière, mais celle d'avant. Cette dame qui était allée chercher l'onction de Donald Trump, pire ennemi déclaré de tous les pays de l'Union européenne, qui était allé chercher, et qu'il avait reçu, l'onction de Vladimir Poutine, pire ennemi évidemment de la stabilité de l'Union européenne, qui avait applaudi, mais si frénétiquement, est-ce qu'on s'en souvient, le Brexit, au point que des maires de municipalités RN renommaient des rues du Brexit. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, je n'ai pas vérifié. Enfin, en tout cas, il l'avait fait. Bien, imaginons qu'une personne aussi inconséquente, aussi aveugle politiquement et gouverner la France, où en serions-nous aujourd'hui ?
Et cette semaine, Emmanuel Macron a reproché à son camp et notamment aux parlementaires d'être plus dans le commentaire que dans l'action dans cette campagne des européennes. Est-ce que vous trouvez...
Je trouve qu'il n'a pas complètement tort.
Oui.
Je trouve qu'il n'a pas complètement
tort. Et pourquoi, selon vous ?
C'est parce que
le camp ne croit pas à une remontada ?
Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Je pense que je vais vous le dire, puisque je l'ai déjà dit souvent. Je pense que nous avons
démarrer trop tard cette campagne. Alors je pense que un retard, ça se rattrape toujours, qu'on va le rattraper. Je suis tout à fait confiant. On va le rattraper, mais maintenant, ça nous demande véritablement une énergie. Vous savez, il y a toujours, dans toutes les campagnes électorales, européennes ou autres, le débat classique entre ceux qui disent « Ah non, non, mais tout se joue dans les 6 semaines avant le scrutin, donc il ne faut pas commencer la campagne trop tôt, ne pas s'épuiser, ne pas se disperser, mais au contraire, y aller à fond, etc. etc. » Et puis les autres qui disent « Non, 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 il faut expliquer beaucoup plus longuement. » Bon, moi, j'appartiens au deuxième camp, j'appartenais au deuxième camp.
Il y a eu notamment beaucoup d'atermoiements, d'hésitations pour choisir la tête de liste de votre camp, qui est aujourd'hui Valérie Ayer. Vous avez vous-même fait acte de candidature pour être tête de liste. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Valérie Ayer, c'est la bonne personne pour mener cette campagne?
Je crois qu'elle le démontre.
D'un certain déficit de notoriété, c'est ce que disent les sondages
savez,
pour l'instant.
Qui connaissait Emmanuel Macron avant qu'il ne se soit présenté à la campagne, à la première présidentielle? Évidemment qu'avant d'avoir une notoriété, on souffre d'un déficit de notoriété. Avant d'être journaliste, à 18 ans, je n'avais pas de notoriété. J'en ai une professionnelle, j'entends, aujourd'hui.
Donc elle peut vous emmener où, jusqu'où alors? C'est quoi le
mais elle va nous emmener. Mais c'est pas elle va nous emmener, c'est nous allons aller bien évidemment à une victoire, bien entendu.
Une victoire. Donc votre objectif, c'est d'arriver devant le Rassemblement national.
Bah, évidemment que c'est l'objectif.
D'accord.
Raphaël Glucksmann, le candidat du PS, est un bon candidat selon vous?
Oui, absolument.
Qu'est-ce qui vous différencie?
Il oublie. Vous savez, là, moi, je voudrais dire une chose. Aux électeurs de centre-gauche, moi je suis un homme du centre-gauche, de ce qu'on appelle la deuxième gauche, celle de Michel Rocard et de la CFDT, de Pierre Mendès France. Je voudrais dire à ces électeurs de penser à une chose, c'est qu'il ne s'agit pas, vraiment pas, d'une élection nationale. L'enjeu n'est pas national. Nous sommes dans une situation de guerre qu'a déclaré Vladimir Poutine. Nous n'avons pas déclaré la guerre à Vladimir Poutine, il nous a déclaré la guerre. Et dans cette situation-là, un affaiblissement politique de la France serait vraiment pas une bonne chose.
On a besoin
dans les institutions européennes, aussi bien au Parlement qu'au Conseil européen, d'une France forte et stable. Ce n'est pas un bon choix aujourd'hui que d'aller affaiblir ou tenter d'affaiblir la stabilité française.
Donc voter pour un opposant à Emmanuel Macron, quel qu'il soit finalement, de gauche ou Rassemblement National, c'est affaiblir la France et renforcer Vladimir Poutine.
Je parlais spécifiquement à la deuxième gauche, aux électeurs de la deuxième gauche et aux électeurs donc de Glucksmann. Oui, bien sûr, c'est à eux que je m'adressais. Tout particulièrement.
On va terminer ce grand jury en revenant sur des questions internationales. Comment qualifiez-vous ce qui se passe en ce moment à Gaza?
Bah, d'abomination. Ces bombardements doivent cesser. Et ces bombardements, il ne faut jamais l'oublier, sont le résultat d'un massacre absolument invraisemblable. Celui commis par le Hamas le 7 octobre dernier, et qui avait pour but, je crois, fondamental, premièrement, de casser le rapprochement entre Israël et les pays arabes. Ils y sont arrivés. En tout cas, ils l'ont gelé. Ils n'ont pas cassé, mais ils l'ont gelé. Et deuxièmement, de rendre les Israéliens fous de douleur. Et là, ils y sont arrivés. Imaginons, dans les mêmes proportions, un 7 octobre en France. Je faisais un rapide calcul, ça ferait 1300 morts multipliés par 6 ou 7. Vous vous rendez compte dans quel état serait aujourd'hui la France avec en quelques heures 1300 Français multipliés par 7, ça fait combien? 80 000 personnes ou je dis des bêtises?
Un peu moins, je pense.
Je ne sais plus.
Ouais, ouais.
Je suis très mauvais en calcul.
1300 fois 7, oui, ça fait plutôt autour de 10 000.
Plutôt autour de 10 000. Eh bien, imaginons, avec 10 000 personnes tuées en quelques heures, l'état psychologique dans lequel nous serions. Je ne pense pas, hélas, que nous serions forcément raisonnables. Et aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas raisonnables. Ce qu'ils font ne mène à rien,
car la vengeance n'est pas une politique.
Mais qu'est-ce qui peut amener Benjamin Netanyahou à arriver, en tout cas à cesser ces bombardements? Est-ce qu'il faut être avec lui? Est-ce qu'il faut faire
des torsions? Non, il faut faire pression sur lui. Faire pression sur lui et sur sa majorité, qui est tout sauf une majorité sympathique, parce que M. Netanyahou appartient à la droite dure, pour ne pas dire durissime, mais il est allié véritablement à des gens qui sont tout simplement des fascistes. Il faut dire les choses comme elles sont, qui sont des fascistes. C'est tout.
Et quels sont les moyens de pression?
Les moyens de pression...
Certains disent qu'il faut arrêter notamment de leur vendre des armes.
Mais les moyens de pression, ils sont énormes de la part des États-Unis, effectivement, avec les ventes d'armes et le soutien financier. Mais nous, les Européens, nous avons aussi des moyens de pression, et qui plus est sur les deux camps. Sur les Palestiniens, parce que c'est l'aide financière de l'Union Européenne qui permet à l'autorité, pas au Hamas, à l'autorité palestinienne de payer les fonctionnaires palestiniens, rien que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité palestinienne si l'Union européenne ferme le robinet financier. Et deuxièmement, nous sommes l'Union européenne, nous sommes le premier partenaire commercial d'Israël, avec lequel nous avons un accord de coopération, dans lequel il y a des clauses politiques, et j'aimerais bien, comme parlementaire européen, et je ne suis pas le seul parlementaire européen à le dire, que nous rappelions à M. Netanyahou l'existence de ces clauses politiques.
La France peut-elle faire entendre sa voix dans ce conflit? On a l'impression que c'est compliqué face à des grandes...
Mais vous savez, personne n'arrive malheureusement à faire entendre sa voix. Et ce que M. Biden arrive à faire entendre sa voix, personne n'arrive aujourd'hui. Parce que le Hamas a créé un tel état de choc, non seulement en Israël, mais en vérité dans le monde, que pour faire revenir une majorité de gens, ou un nombre suffisant de gens à la raison, pardonnez-moi de ma vulgarité, on rame et on n'y arrive pas. Alors, on est beaucoup à pousser, mais on n'y arrive pas encore. Mais il faut continuer à pousser, bien entendu.
Merci beaucoup Bernard Guetta, député européen Renew, membre de la majorité présidentielle et spécialiste des questions internationales pour ce grand jury. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.